SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Il est 13h à Melbourne, vous écoutez votre programme en français sur SBS Audio. Soyez les bienvenus, Thomas Mercier pour vous accompagner durant 7h. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports avec Jean-Noël Ducasse, puis le journal de l'écho. Christophe Mallet a reçu Antoine, un passionné de foot australien qui vit en France. Et avant 14h, focus sur le BMX qui sera au prochain JO de Paris. Mais tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout d'abord par les titres de ce 1er juin, premier jour d'hiver par ailleurs. Plus de 3 millions d'étudiants vont voir leur prêt augmenter dès aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a approuvé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine. À Tokyo et Séoul, les habitants ont été réveillés par les sirènes. La Corée du Nord a procédé à un tir qui a semé la confusion. Comme je vous le disais en titre, plus de 3 millions d'étudiants vont voir leurs prêts augmenter. Dès aujourd'hui, le taux passe de 3,9 à 7,1%, ce qui signifie que la dette moyenne devrait augmenter de 1 700 $. On écoute la réaction de la chef adjointe des Verts, Meryn Farouki.
Today, graduates and students are distressed, but they are also furious with the Labour government, which had the power to step in and stop this. Yet they sat back and did nothing. No one should be shackled with tens of thousands of dollars of debt, which takes a lifetime to pay off just to study. Education should not be a debt sentence.
Le président américain Joe Biden a approuvé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine qui s'élève à plus de 461 millions de dollars. Cette nouvelle aide comprend des équipements supplémentaires, notamment des drones et des armes. Il y a quelques jours, un drone a ciblé Moscou. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que rien ne laissait croire que des drones ou des munitions fabriquées aux États-Unis aient été utilisées dans les frappes contre Moscou et sa région. Des frappes que le Kremlin a amputées à l'Ukraine, mais dont Kiev n'a pas revendiqué la responsabilité. L'administration Biden a déclaré avoir clairement indiqué à l'Ukraine que les armes fabriquées aux États-Unis ne devraient pas être utilisées pour des attaques en territoire russe.
We don't tell them where to strike. We don't tell them, where not to strike. We don't tell them how to conduct their operations. We give them equipment. We give them training. We give them advice and counsel. Heck, we even do tabletop exercises with them to help them plan out what they're going to do. But ultimately, President Zelensky and his military commanders decide what they're going to do from a military perspective. And they decide what they're going to do with the equipment that has been provided to them and that they now own.
L'Union européenne et les États-Unis ont annoncé ce mercredi un projet de code de conduite commun sur l'intelligence artificielle. Ce code veut faire face au risque de voir la Chine donner le la pour réguler un domaine en pleine explosion. Des responsables politiques ou concepteurs de la technologie, tous sont d'accord pour qu'un consensus mondial puisse émerger sur le besoin d'encadrer, plus ou moins librement, une technologie aux effets révolutionnaires mais au risque élevé de dérapage. Le code de conduite annoncé serait ouvert à tous les pays partageant les mêmes idées, a précisé le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken lors d'une conférence de presse commune avec des poids lourds de Bruxelles. De son côté, la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, connue pour ses bras de fer avec les géants américains du net, a indiqué qu'une première version serait présentée dans les prochaines semaines.
I think we share a conviction that the TTC has an important role to play in helping establish voluntary codes of conduct that would be open to all like-minded countries, particularly because there's almost always a gap when new technologies emerge between the time at which those technologies emerge and have an impact on people and the time it takes for governments and institutions to figure out how to legislate or regulate about them. And we feel the fierce urgency of now, particularly when it comes to generative AI.
Aux États-Unis, la séance à la Chambre des représentants est particulièrement suivie. Un accord pour éviter un défaut de paiement doit y être voté. La Maison-Blanche et le président de la Chambre des représentants ont trouvé un accord le week-end dernier, après de longues négociations. Le texte doit désormais passer par le Parlement. Au-delà de l'enjeu économique, c'est l'enjeu politique qui prédomine, et plus particulièrement pour les Républicains. Depuis Washington, Guillaume Dodin pour RFI.
Entre élus du Parti Républicain, ce n'est pas toujours le grand amour, mais en ce moment, les dissensions sont exacerbées. En cause, l'accord pour permettre à l'État fédéral d'emprunter afin de payer ses factures en échange d'un plafonnement des dépenses budgétaires. Cet accord, il a été négocié entre le président démocrate, Joe Biden, et le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy. Et ses collègues les plus radicaux, les plus à droite, assimilent ce compromis à quelque chose d'immangeable qu'il faudrait quand même avaler. Il reproche à Kevin McCarthy d'avoir fait trop de concessions. Cela fait des jours qu'il essaie de les convaincre du contraire et de rassembler le plus de votes possible dans son propre camp. Il pense en avoir au moins 150. C'est loin de la majorité de 218 voix et les démocrates ont déjà annoncé qu'ils viendraient à la rescousse. Ce n'est évidemment pas très bon pour l'autorité de Kevin McCarthy et les élus républicains sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils voteront non. Pour se faire élire speaker de la Chambre, après 15 tours de scrutin en janvier, Kevin McCarthy avait fait de lourdes concessions aux plus extrêmes, dont celle-ci. Il suffit qu'un seul élu de son camp demande un vote pour le remplacer pour que ce vote ait lieu. Et certains y pensent désormais tout haut. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
À Tokyo et Séoul, les habitants ont été réveillés par les sirènes. La Corée du Nord a procédé à un tir qui a semé la confusion. Tir qui s'est soldé par un échec pour Pyongyang. Le lancement de son satellite espion a échoué. Le régime avait annoncé cette opération en grande pompe pour contrer les velléités militaires des États-Unis et la Corée du Sud dans la région. Mais le lanceur s'est abîmé en mer. Explication de Stéphane Barinski, journaliste spécialiste et rédacteur en chef du magazine Aerospatium pour RFI.
Donc le premier étage, qui devait être un missile qu'on connaît, a bien fonctionné. Il a largué le deuxième étage, qui apparemment a eu un problème, et c'est pour ça que ce n'est pas allé jusque sur orbite. Maintenant qu'ils ont des missiles intercontinentaux qui fonctionnent généralement assez bien, quand vous avez un missile suffisamment puissant, si en haut de ce missile vous rajoutez un étage qui permet de rajouter un peu de vitesse, vous pouvez aller jusqu'à la satellisation, ce qui était prévu là, un satellite espion. La plupart des pays qui ont développé des missiles intercontinentaux les ont utilisés pour faire des lanceurs. C'était le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Union soviétique, c'est le cas de la Chine. Utiliser cette technologie qu'ils maîtrisent maintenant des missiles intercontinentaux pour avoir une capacité de lancer des satellites espions, ça augmente leur crédibilité, puisque quand on a ces satellites espions, on peut surveiller les voisins, on peut savoir ce qui se passe, on peut choisir ses cibles, et donc on a une dissuasion encore plus crédible. Vous savez, les régimes qui ont abandonné leur programme de missiles balistiques et leur programme d'armement nucléaire, c'était l'Irak et la Libye. On sait ce qu'il était devenu de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi. Je pense que ça motive un peu Kim Jong-un pour avoir une dissuasion crédible.
Les incendies dans la province de Nouvelle-Écosse sont toujours en proie des flammes. La municipalité régionale d'Halifax, dans le sud-est du Canada, a déclaré l'état d'urgence. Cette mesure permet notamment un accès à des fonds d'urgence. Des milliers de personnes ont été évacuées. Un deuxième feu fait rage actuellement à la pointe sud-ouest de la province, dans le comté de Shelburne. 200 structures, dont 151 maisons, ont été détruites depuis le début de l'incendie. Malgré un temps sec et venteux, le chef adjoint régional des incendies et des urgences d'Halifax, David Meldrum, a déclaré qu'ils espéraient une accalmie, mais cela ne devrait pas se produire avant vendredi soir au plus tôt.
I believe this is a stressful time. It's taking considerable time and we're containing this fire with our partners. But every day that goes by without rain and every day that the temperature goes up and every day that the winds are significant allows those fuels to become more and more volatile.
1,3 milliard de fumeurs dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé et chaque année plus de 8 millions de décès sont attribués à la consommation de tabac. Le Mexique compte 19 millions de fumeurs et depuis janvier, une loi interdit de fumer dans les établissements publics, y compris en extérieur et dans certaines rues, et toute forme de publicité y est interdite. 6 mois après la mise en place de cette loi, quel est le bilan de cette stratégie anti-tabac? Gwendolina Duval pour RFI.
Dans les faits, aucune baisse de la consommation n'est visible et aucune sanction n'a été rendue. Le tabac continue de se vendre et d'être consommé sans contrôle au Mexique. Selon Adriana Camarena de l'ONG Salud Hablé, les effets de ces nouvelles mesures ne sont pas à la hauteur.
Oui, nous avons désormais une loi solide qui nous donne des outils et nous permettrait d'avoir un contrôle du tabac pour le bien de la population en termes de réduction des maladies, de prévalence de consommation par les mineurs et en nombre de morts. Mais nous sommes loin d'avoir amélioré les chiffres, justement parce que nous n'arrivons pas à enraciner ces mesures.
Sur le plan légal, la loi est contestée. Eric Ochoa dénonce une féroce réaction de l'industrie du tabac et des grandes chaînes de magasins qui vendent les cigarettes.
Ils ont présenté une avalanche de procédures qui attaquent deux points cruciaux. L'interdiction de présenter les paquets de cigarettes dans les points de vente. Et l'autre mesure, c'est qu'ils veulent faire disparaître l'interdiction de fumer dans les espaces fermés.
Depuis janvier, plus de 2500 recours en justice ont été présentés. Certains ont abouti à une suspension de la loi au nom des intérêts économiques. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Tout de suite, la météo de ce jeudi 1er juin, premier jour d'hiver. À Perth, averse prévue 19 degrés. À Adélaïde, risque de pluie est 19 degrés. À Melbourne, alternance de nuages et d'éclaircies avec des risques d'averse et 16 degrés au thermomètre. Hobart, pluie prévue et du vent en fin de journée pour 13 degrés au maximum. Canberra, passage nuageux, 18 degrés prévus. À Sydney, soleil et nuages, 23 degrés. Brisbane, soleil, 26 degrés. Cairns, alternance de nuages et d'éclaircies avec des risques de pluie, 28 degrés prévus, et Darwin, soleil et 31 degrés. Bon appétit avec SBS. On le rappelle tout de suite des titres de ce 1er juin. Plus de 3 millions d'étudiants vont voir leurs prêts augmenter dès aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a approuvé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine. Et à Tokyo et Séoul, les habitants ont été réveillés par les sirènes. La Corée du Sud a procédé à un tir qui a semé la confusion. Passez un très bon moment avec votre programme en français de SBS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis Roland-Garros et ça passe pour Novak Djokovic, le Serbe, qui a battu Fuksovic, le Hongrois, en 3 manches. Alcaraz s'est imposé contre Daniel, le Japonais, en 4 manches. Tsitsipas, le Grec, a vaincu Caballes Baena, l'Espagnol, en 3 manches. Chez les Français, la Française Caroline Garcia, éliminée par la Russe Blinkova. Eric Mamrut, RFI.
Trahie par ses nerfs, Caroline Garcia, malgré le soutien du public, malgré un avantage d'un set et d'un break, la Lyonnaise de 29 ans s'est mise à gamberger face à la 56e joueuse mondiale.
Je me suis tendue énormément et je commence à avoir un peu peur de rater en jouant ce jeu-là agressif. Et à partir de là, je n'ose plus trop y aller, ce qui cause encore plus de fautes et des frappes un peu faites... à moitié et soit ça s'envole, soit ça fait des balles trop courtes pour l'adversaire et c'est un peu dur à perdre en ayant joué comme ça.
Ce jeu agressif adopté l'an passé est récompensé par un sacre au Masters en novembre, dévastateur quand tout va bien mais limité quand la machine se grippe selon l'ancienne lauréate de Roland-Garros, Mary Pierce.
On n'est pas des machines et ça ne va pas marcher tous les jours parfaitement, donc quand ça ne marche pas, on peut jouer le même jeu mais peut-être avec un petit peu plus de sécurité au lieu de frapper à 100% à chaque balle, peut-être 90 ou 80 au lieu de les jouer sur les lignes, peut-être un peu de marge, au moins 1 mètre de ligne du fond, au lit du côté, etc. C'est ça quand on est sur le terrain. terrain de tennis, c'est trouver des solutions pour gagner.
Éliminée au deuxième tour des quatre tournois sur terre battue qu'elle a disputé, Caroline Garcia va maintenant se tourner vers le gazon en espérant retrouver la confiance et la sérénité qui l'avaient portée vers les sommets l'année dernière.
D'autres Français ont été éliminés hier, Moutet, Pouille et Humbert. Mardi, il y avait l'immense exploit de Gaël Monfils qui a renversé le match de son premier tour contre Sébastien Baez, l'Argentin. Mais hier mercredi soir, très tard, il a déclaré forfait blessé pour le deuxième tour contre Rooney. Il est touché au poignet gauche. Mais je vous propose ce retour sur le match de mardi soir avec Olivier Pron pour RFI.
Gaël Monfils, bien sûr, Nathalie, vous l'avez reconnu sans doute, senti auteur d'un match et d'une remontada, peut-on lire ce matin, de folie dans un stade en ébullition. Ce n'était pourtant qu'un premier tour, un retour de la Monf qui a tout arrêté 8 mois pour profiter de sa paternité et donc de Sky, sa fille, à 36 ans, 14 de plus que son adversaire argentin Sébastien Baez et plus de 300 places derrière au classement. Gaël a régalé un public en fusion pendant près de 4 heures, 4-0, balle de 5-0 dans le cinquième et dernier set. Le Parisien est revenu pour s'imposer 7-5. Une première victoire depuis son retour à la compétition il y a quelques semaines. Peut-être la plus belle de sa carrière avec un niveau de jeu qu'il a surpris lui-même.
Des émotions incroyables, le public exceptionnel. Malade. Il m'a poussé du début à la fin. Une ambiance de fou, comme on aime. Je me suis forcément surpris, je m'attendais pas forcément à pouvoir tenir ce niveau-là, pouvoir élever mon niveau à certains moments, pouvoir bien jouer les moments importants, pouvoir gérer même un peu de pression. Grosse surprise pour moi.
Medvedev, le Russe, éliminé mardi dès ce premier tour par Seeboff Wild, le Brésilien, 172e mondial. En 5 manches, 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4. Chez les Australiens, Kokkinakis a battu Wawrinka, le Russe, en 5 manches. Et Kubler, l'Australien, éliminé par Fognini, l'Italien. Storm Hunter, l'Australienne, a été éliminée par Svitolina, l'Ukrainienne, en 3 manches. On passe au foot, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a sélectionné les joueurs pour l'Euro 2024. Sophie Pouzrat, RFI.
23 noms retenus, aucun nouveau, mais 3 anciens font leur retour. Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé et Ferland Mendy. En revanche, Didier Deschamps n'a pas jugé bon de rappeler un autre attaquant, le Lyonnais Alexandre Lacazette, pourtant deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 27 réalisations. Même si le patron des Bleus reconnaît que le joueur n'a pas démérité, écoutez.
Il a marqué autant de buts, parce qu'il joue beaucoup plus que sa dernière saison certainement aussi. Mais bravo à lui, à son club. Voilà, Alex a toujours eu cette qualité-là d'efficacité. Il fait une très bonne saison, il fait partie des sélectionnables. Après, il y a une concurrence au poste aussi, avec des joueurs qui ont répondu et qui continuent de répondre à mes attentes et aux attentes de l'équipe de France. Je ne vais pas en mettre 3, 4, 5 au même poste, ça n'a pas trop de sens. Il y a des cases, chaque poste est doublé et aujourd'hui, avec Olivier Giroud et Randal Kolo Muani, c'est les deux qui occupent ce poste-là.
Foot toujours avec le prix Marc-Vivien Fauré et Chancel Mbemba de l'OM a été élu mardi 30 mai meilleur joueur africain du championnat de France de foot de Ligue 1. Christophe Jousset, RFI.
Un coude à coude épique jusqu'au bout. La petite centaine de journalistes, consultants, anciens joueurs qui ont voté ont été très partagés. Mais à l'arrivée, Chancel Mbemba totalise 207 points. Seko Fofana, 196. L'écart est faible alors que le Nigérian de Nice, Terem Moffi, complète le podium avec 125 points. Même si la dynamique de fin de saison a été globalement favorable aux Lensois, le jury a récompensé sur l'ensemble du championnat un joueur qui, pour sa toute première année en France, s'est imposé d'emblée à l'OM, et chacun sait que ce n'est jamais facile. Puissant, rapide, expérimenté, le Léopard a apporté une solidité à la défense olympienne. Il a aussi séduit par son apport offensif. Avec 5 buts en L1 le dernier samedi contre Brest, il est le troisième meilleur buteur du club. Depuis 2009 et la création du prix Fauré, on avait vu des défenseurs sur le podium. Le Camerounais Nicolas Nkoulou, l'Ivoirien Serge Aurier, le Sénégalais Cherndoy ou encore le Malien Amari Traoré. Aucun n'était monté sur la plus haute marche. Chancel Bemba est à jamais le premier. Marseille peut fêter son numéro 99. Il lui permet de remporter une deuxième fois un trophée qu'André Ayew était allé chercher sous le maillot de l'OM en 2015.
On écoute maintenant la réaction des supporters de l'OM sur RFI.
Mbamba ? Bah oui, je le connais. Bah il est fort, hein.
Très bon joueur, solide, très bonne recrue, la meilleure. Je pense pas qu'on aurait pu trouver mieux, quoi.
Non, c'est direct incrusté dans l'équipe. C'est direct incrusté et il fait de bons matchs.
Je suis fan, j'adore son parcours. Après, il a eu quelques moments difficiles, mais bon, j'ai confiance en lui et je sais que ça va le faire.
Qu'est-ce qu'il a apporté à l'OM ?
Bah, une stabilité, je dirais. Après, je le vois pas dans le vestiaire, mais je pense que c'est quelqu'un de caractère sur qui on peut s'appuyer aussi, ouais.
Ah, c'est un guerrier, hein. Non, il faut le garder, lui. Il fait partie de la colonne vertébrale de l'équipe. Je pense que c'est le taulier de la défense. Il y a Gigot qui est pas mauvais aussi, qui mouille bien le maillot, mais c'est vrai que Chancel, il va bien, quoi.
Faut vraiment faire partie de l'OM pour comprendre ce que ça veut dire, mais c'est un club à part. Quand il y a la pression des supporters derrière, c'est compliqué. Il faut savoir s'adapter.
Bon, après, il arrive du Portugal, il était à Porto. Je pense que la pression, il connaît quand même, quoi.
Hugo, viens. Chancel est même pas, on l'a vu.
Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Déjà, je pense que c'est un très bon défenseur.
Il joue pas beaucoup, ouais. Là, depuis quelques matchs. On trouve qu'il joue pas assez. On aimerait bien le voir plus souvent. Il a un respect du club, des supporters aussi. Il est très sympa. On l'a vu plusieurs fois s'arrêter ici. Voilà, enfin, nous, on le trouve très bien. Et on aimerait bien qu'il reste encore un petit peu avec nous. Voilà.
Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi.
French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Et aujourd'hui, on va parler de football et quelque chose de vraiment très sympa qu'on a pu découvrir dans les derniers mois. Enfin, ça fait un petit moment qu'on suit, mais j'ai vu quelques nouveautés dans les dernières semaines. On a Antoine Blanchet-Quérin qui est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour Christophe, ça va ?
Ça va, impeccable. Alors, on va parler de football. Vous êtes de Outback Football. Je pense que vous êtes le Français, mais même en Australie, hein. Vous êtes le Français qui connaît le mieux la A-League, le championnat de football australien. C'est un peu une passion pour vous. En tout cas, vous avez dédié un compte Twitter et pas mal d'informations qui filtrent à travers ce compte Twitter, Outback Football. Vous êtes un peu le monsieur A-League du football. Pourtant, vous êtes basé en France.
Ah, c'est ça. J'essaye de représenter au mieux le championnat australien et d'attirer l'éveil en fait de suiveurs français qui pourraient se dire « Ah tiens, là-bas, ça joue au football, c'est intéressant, il y a un développement, il y a toute une histoire et aussi qui est très intéressante. » Et mon idée, c'est d'amener les gens vers de nouvelles contrées, donc l'Australie, et leur dire qu'à travers le football, il y a tout un tas d'histoires qui peuvent être racontées. Et j'ai de la chance, c'est que cette année, il y a eu beaucoup de Français qui ont rejoint le championnat.
Oui, tout à fait. Et on va parler du championnat, bien sûr, parce que la A-League, c'est le championnat australien. Mais la France connaît l'Australie. Sur les deux dernières Coupes du Monde, c'est quand même comme ça que la France a commencé sa quête envers à la fois une Coupe du Monde ou une finale de Coupe du Monde.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs sur les tirages. Ça m'a donné davantage de personnes qui m'ont suivi. C'est-à-dire que, ben, en fait, oui, l'Australie, et surtout qu'elle a tenu tête à l'équipe de France. On se rappelle qu'il y a eu un 2-1 décroché difficilement par les Français. Et dernièrement, l'Australie avait ouvert le score contre la France.
Ce 2-1, j'y étais. J'étais dans le stade à Kazan. C'était incroyable. Avec un maillot bicolore. Parce que je suis les deux. Je suis français et australien. Donc j'avais la chance de pouvoir sortir mon maillot bicolore.
Eh ben, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Mais en tout cas, je pense que ça devait être vraiment sympa à suivre pour toi, qui est binational, du coup.
Cette A-League, en fait, parlez-nous un petit peu de cette passion, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs français, vous le dites, qui sont aujourd'hui en A-League, mais il y en a pas mal qui sont passés aussi par la A-League. On pense à Ben Kalfala, il y a eu aussi Galas, par exemple, qui sont passés à Perth, avec plus ou moins de succès, hein, faut pas se voiler la face, mais c'est une ligue qui attire encore quelques joueurs français.
Oui, alors moi je suis arrivé après Galas, je suis plutôt arrivé donc sur le premier cité Faïd Ben Kalfala. J'ai eu la chance de voir jouer Eric Baoteak et Jacques Fati, qui était le premier français à m'accorder une interview. Et ce qui se passe en ce moment, moi qui peux échanger avec certains joueurs, c'est qu'il y a davantage d'échanges entre la France et l'Australie. On peut penser à Denis Genro qui est parti à Toulouse. C'est qu'en fait Faïd Ben Kalfala est devenu agent de joueur et en fait il permet en fait de d'augmenter les relations franco-australiennes. Donc on a vu des joueurs comme Mohamed Touré quitter Adélaïde pour aller à Reims. C'était un joueur qui a pour agent Fahd Ben Khalfala. Et à l'inverse, il y a des agences françaises qui sont venues faire leur marché en France. Donc du coup, on se retrouve avec, par exemple, trois joueurs français au Wanderers de Sydney.
D'accord, c'est quand même ouais, c'est impressionnant parce que bon, ok, on comprend qu'il y a le côté business hein, qui fait que ça emmène les joueurs ici, mais c'est une ligue qui est aussi un peu intéressante parce que c'est une ligue qui est un peu qui est complètement différente. Où est-ce qu'on pourrait jauger, à votre avis, cette ligue? Est-ce que c'est de la bonne division 2? Est-ce que parce qu'on sait clairement pas de la Ligue 1, c'est clairement pas au niveau de la Premiership anglaise et faut pas se voiler la face. Hein, mais ça serait où? Ce serait sur une Ligue 2? Ce serait où l'équivalent de la E-League?
Eh ben, c'est une excellente question qui a toujours été très difficile à expliquer parce que c'est très difficile de comparer les championnats. Mais maintenant, avec tous les systèmes de data, il y a des systèmes de puissance d'équipe qui existent avec Opta, par exemple. Et je m'étais amusé à faire ça. Et ben, on peut comparer le championnat australien à peu près à la Ligue 2 française. Certains clubs vont être plutôt en haut du tableau, d'autres plutôt vers le bas, puisque... Ben, forcément. Mais sinon, il y a une ligue qui s'approche énormément de la ligue australienne, c'est le championnat d'Écosse, qui est très ressemblant. Et d'ailleurs, on retrouve énormément de joueurs qui jouent, qui font des transferts donc d'Australie vers l'Écosse, parce que c'est un championnat qui est très similaire, qui est, on va dire, très physique aussi. Et donc, voilà, si on pourrait trouver une cousine européenne au championnat d'Australie, ce serait l'Écosse.
D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans cette A-League? Parce que on sait qu'ici, en Australie, la A-League a eu plutôt ses hauts et ses bas en termes d'audience. Les stades ne sont pas forcément pleins. Il y a pas forcément une. Il y a d'autres sports hein, propriétaires. Il y a le rugby ici, il y a le football australien, plus sur Melbourne et dans le Victoria. Mais la A-League a un peu du mal à trouver ses marques, en tout cas sur le long terme. Mais vous, par contre, vous êtes passionné de ça.
Alors, pour la genèse de l'histoire, mon meilleur ami a été fan en fait du Wellington Phoenix. Enfin, il suivait un petit peu des équipes un peu dans le monde entier. Et j'avais commencé à m'intéresser. Et j'avais commencé à écrire sur divers blogs sur Internet. Et c'est resté parce que j'ai trouvé un intérêt. Et j'avais trouvé tout de suite des gens pour me lire et rendre mon travail intéressant, que ce soit par des Australiens qui apprenaient le français ou des Français qui étaient intéressés par le football en Australie. Et c'est resté de fil en aiguille. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé dans une année où Sydney remportait la Ligue des Champions. Et ensuite, l'Australie était championne d'Asie. Donc, j'ai eu un très beau tremplin. Et ensuite, ça s'est suivi par la Coupe du Monde, les deux Coupes du Monde d'ailleurs, où la France et l'Australie ont été ensemble. Et aussi, je pense que je suis arrivé dans une bonne décennie, car j'ai eu la chance de suivre un développement qui est immense, par exemple avec des nouvelles franchises. Il y a aussi des développements sur les académies, des joueurs qui ont fait des transferts intéressants en Europe. Et prochainement, il y a toute la nouvelle division qui est dans les papiers, donc qui est très intéressant à suivre, et dont en France, il y a des gens qui s'intéressent à ce championnat, qui est très très loin. Donc c'est toujours un plaisir d'en parler, même si je fais ça de bénévolement, c'est pas du tout mon métier.
Cette A-League en elle-même, vous parlez qu'il y a une deuxième division qui est un peu dans les papiers. C'est important quand même d'avoir un système de relégation et de promotion parce que ça revigorifie un peu la ligue en fait en elle-même.
Alors mon avis là-dessus, c'est forcément
ça se débat.
Ça se débat parce que je suis pas natif d'Australie, donc je peux pas donner du crédit à un système qui, pour moi, j'aime pas du tout le format fermé comme celui-ci. Moi, j'aime bien que les clubs montent et descendent, et puis ça permet au moins de pas avoir des clubs qui, peut-être 10 journées avant la fin n'ont plus rien à jouer et ne servent pas à grand-chose. Donc l'idée d'une promotion et d'une relégation, pour moi, c'est forcément ce qu'il y a de mieux, parce que d'un point de vue, c'est vrai que d'un point de vue français et même européen, on ne voit pas l'intérêt d'une ligue fermée. Et on a bien vu qu'avec la Ligue des Champions qui aurait voulu passer dans un système fermé, la levée de bouclier qui a été mise en place par les supporters et les clubs pour dire non, mais c'est inadmissible, personne ne veut ça. Donc moi, je suis forcément très enthousiaste face à cette ouverture de championnat que j'espère le plus rapidement possible.
D'accord. L'Australie, pour vous, c'est un pays, si on extrapole hein, simplement en dehors du football, vous êtes venu en Australie, est-ce que c'est un pays qui vous fait rêver? Est-ce qu'il y a un aspect culturel de l'Australie aussi dans tout ça, dans cette passion pour la A-League?
Eh ben non, pas du tout. Pour être sincère, j'ai jamais eu d'intérêt particulier pour l'Australie en termes de pays, mais je trouve que c'est très intéressant. En fait, avec le football, j'apprends toute son histoire. Par exemple, les vagues d'émigration qui ont permis de créer des clubs de football où les migrants européens, en fonction des années, se sont rassemblés dans des clubs de football, comme à Melbourne ou choses comme ça. Et donc, du coup, c'est assez intéressant d'apprendre l'histoire de l'Australie. Par exemple, dernièrement, je sais qu'en avril, il y a le Anzac Day. Et donc, du coup, c'est de pousser un petit peu, se dire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils fêtent, et d'en parler un peu sur mon compte Twitter. Donc, d'une part, j'apprends aux gens ce que c'est, et moi, j'étoffe ma culture. Après, l'idée d'aller en Australie, forcément, c'est un peu plus intéressant pour moi, puisque si je pouvais participer aux phases finales du championnat, ça pourrait être intéressant. Mais non, c'est pas prévu en tout cas dans un futur proche.
D'accord, faut vous trouver un bon sponsor pour vous envoyer jusqu'ici en fait.
oui, parce que c'est vrai que les prix des billets d'avion sont assez excessifs, mais bon, c'est ouais. Un bon voyage.
comment vous voulez développer votre activité? Parce que là aujourd'hui, vous parlez d'un compte Twitter. Est-ce que vous avez pour but d'étoffer un petit peu ça, d'écrire, de sortir peut-être une publication un peu plus tangible, un blog, un site, comment vous pensez développer tout ça?
Je pense que je suis passé avant. J'avais mon nom de Twitter en fait était A-League France. Mais en fait, ce nom me restreignait trop. Par exemple, la Coupe du Monde féminine rentrait pas dedans. Donc, j'ai décidé d'appeler ça Outback Football. Donc, j'avais déjà demandé à des Australiens si le terme Outback n'était pas connoté négativement parce que ça aurait pu faire mauvaise presse. Après, moi, j'exerce sur le site lucarneopposé.fr où j'écris tous mes billets. Et je pense rester là, même dans un futur proche et même à long terme, parce que le côté bénévole et rédacteur bénévole me permet de faire uniquement ce que j'aime. Je n'ai aucun intérêt, contrat à écrire tant d'articles par jour. Après, moi, mon objectif, c'est grâce en fait au lien d'avant beaucoup plus fort entre l'Australie et la France avec les divers transferts, c'est de parler plutôt des jeunes qui sortent du lot parce que les jeunes jouent au football en Australie. Davantage que dans les autres sports. Donc il y a une génération qui arrive et qui va arriver, qui sera d'autant plus talentueuse que ses aînés. Donc l'idée, c'est surtout de suivre ces jeunes et de, s'ils arrivent en transfert en France, leur dire, moi j'ai vu tous ces matchs, je suis capable de te dire qu'il peut être intéressant ici, 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 et que ses points faibles sont ici, ici, ici. Donc voilà, c'est plutôt le côté connaître les futures pépites australiennes tout en parlant du développement du championnat en Australie.
Ok, c'était très sympa de se parler. Il faudrait qu'on reste en contact parce que c'est vrai que moi, je vous suis sur Twitter et c'est presque un petit peu la meilleure façon de suivre la A-League parce que c'est en français, c'est plus sympa.
C'est l'idée et en fait, j'ai eu beaucoup d'Australiens qui apprennent le français en deuxième langue, j'imagine, et en fait, qui m'avaient envoyé quelques messages en disant « c'est très bien parce que c'est pas des mots qui sont très difficiles et ça permet d'associer une passion, le football, et de se dire « je peux améliorer mon vocabulaire ». Donc, je me dis « si je peux aussi profiter à des Australiens qui veulent apprendre le français, tant mieux ». Et je suis très content que SBS m'ait ouvert les portes puisque c'est un peu une belle gratification pour moi.
Ça marche. Merci Antoine. C'était Antoine Blanchet-Kerin d'Outback Football. Vous pouvez le suivre sur Twitter. On va mettre tous les liens sur notre podcast. Merci Antoine.
Merci Christophe. Merci à tous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tout de suite, le rappel des titres de ce jeudi 1er juin. Plus de 3 millions d'étudiants vont voir leurs prêts augmenter dès aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a approuvé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine qui s'élève à plus de 461 millions de dollars. Cette nouvelle aide comprend des équipements supplémentaires, notamment des drones et des armes. À Tokyo et Séoul, les habitants ont été réveillés par les sirènes. La Corée du Nord a procédé à un tir qui a semé la confusion, tir qui s'est soldé par un échec pour Pyongyang. Le lancement de son satellite espion a échoué.